Prédication de Dürth Sickens sur les béatitudes. Bonjour frères et sœurs. Un jour, j'ai vu un reportage à la télévision sur une famille chrétienne qui avait adopté un petit garçon. Et cet enfant disait « Je ne crois pas en Dieu ». Alors ses sœurs lui répondirent « Mais si tu ne crois pas en Dieu, tu irais en enfer. » Dans nos milieux aussi, on entend ce genre de déclaration. Les chrétiens disent « Si tu ne te convertis pas, tu seras perdu pour l'éternité. » Cependant, Jésus a dit « Je suis venu pour sauver ce qui était perdu. » Jésus avait une autre mentalité. Et aujourd'hui, je voudrais vous poser la question « Jusqu'où va votre miséricorde ?» Et je vais en parler à partir d'un texte très connu de l'Évangile de Matthieu, c'est-à-dire les béatitudes. Le mot « béat » signifie « bienheureux ». Il est dit aussi de Dieu qu'il est bienheureux. Le terme grec pour bienheureux, c'est makarios. Je vais donc relire ce texte à partir de Matthieu, chapitre 5, verset 3. Bienheureux les pauvres en esprit, car c'est à eux qu'est le royaume des cieux. Bienheureux ceux qui mènent deuil, car c'est eux qui seront consolés. Bienheureux les débonnaires, car c'est eux qui hériteront de la terre. Bienheureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car c'est eux qui seront rassasiés. Bienheureux les miséricordieux, car c'est à eux que miséricorde sera faite. Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, car c'est eux qui verront Dieu. Bienheureux ceux qui procurent la paix, car c'est eux qui seront appelés fils de Dieu. Bienheureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, car c'est à eux qu'est le royaume des cieux. Vous êtes bienheureux quand on vous injuriera et qu'on vous persécutera et qu'on dira en mentant toute espèce de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous et tressaillez de joie, car votre récompense est grande dans les cieux. Car on a persécuté ainsi les prophètes qui ont été avant vous. Voilà. Mais de qui s'agit-il du verset 3 au verset 10? Il s'agit des humains en général. Attention! Jésus dit ici que c'est à eux qu'appartient le royaume des cieux. Et à partir du verset 11, Jésus s'adresse à ses disciples, car là il dit « vous ». Donc, du verset 3 au verset 10, Jésus répète « car c'est à eux qu'est le royaume des cieux ». Et ces versets comprennent toute l'histoire des humains. C'est comme s'il s'agissait des mains de Dieu qui contiennent toutes les histoires des hommes. Et nous, nous le trouvons au verset 11, parce que nous, nous avons déjà le royaume des cieux. Je peux dire que le royaume des cieux m'appartient, parce que je n'ai plus soif ni faim de justice. Et je suis déjà pur de cœur, grâce au sacrifice de Jésus-Christ. Je suis déjà un artisan de la paix, grâce à l'Évangile. Et je suis déjà un enfant de Dieu. Représentons-nous la scène. Jésus est monté sur la montagne, et arrivé là, il s'assied sur une pierre. Et c'est de là qu'il parle à ses disciples. Et c'est comme si, du haut de cette montagne, il regardait par-dessus ses disciples, vers le monde entier. Jésus a dit souvent « Je suis venu dans le monde » et en grec, c'est le cosmos. Jésus est venu pour tout le cosmos. Regardons quelques éléments de plus près. D'abord, les pauvres en esprit. Ces pauvres sont des mendiants. Il leur manque quelque chose. Ils sont dépendants d'autrui. Ils n'ont pas pu se développer spirituellement. Il y en a beaucoup de tels pauvres, des centaines de milliers. Et quand nous voyons quelqu'un mendier de l'attention, quelle est notre réaction? Est-ce que cela nous irrite? Ou allons-nous accorder de l'attention à cette personne? Nous vivons dans la dictature du diable et il y a des millions de pauvres. Je pense aux enfants mort-nés, à ceux qui n'ont jamais pu se développer. Je pense aux handicapés physiques ou mentaux, et certains sont doublement handicapés. Pensons aux patients psychiatriques qui sont complètement perdus. Ils n'ont pas de force spirituelle en eux. Ils ne peuvent même pas penser. Pensons aux victimes des dictatures au cours des siècles. Toutes ces personnes qui n'avaient pas le droit de penser par elles-mêmes. Voilà les pauvres. Il y a ceux qui ont besoin d'aide et de soutien parce qu'ils ne peuvent pas s'en sortir par eux-mêmes. Ceux-là, nous pouvons les délivrer d'esprits mauvais. Et nous pouvons leur donner une nouvelle vie, car nous avons le royaume des cieux en nous. Partageons le leur. Voilà notre don aux pauvres en esprit. Et il y a aussi la solitude, celle qui est tuante pour l'esprit. C'est aussi de la pauvreté. Et c'est terrible d'être ainsi rentré en soi-même. Comment aider ces personnes? Le visage de Jésus, plein de bonté, m'émeut. Jésus dit que le royaume des cieux leur appartient. Et à ceux qui ne croient plus en rien, ne leur demandez pas de choisir pour Jésus, accordez-leur plutôt de l'attention et de l'intérêt. Cela fait déjà beaucoup. Jésus aussi était toujours auprès de ces personnes. Dans Ésaïe chapitre 57 au verset 15, nous lisons que Dieu est auprès des écrasés et de ceux dont l'esprit est abattu. Ceux dont le cœur est saccagé et déchiré. C'est vers ceux-là que Dieu veut aller. Dieu n'a rien à dire aux nantis de cette terre. Dans ce même verset, il est dit que Dieu habite dans le ciel et aussi auprès de celui qui est abattu et dont l'esprit est contrit. Par conséquent, Jésus, qui est l'image du Père, se trouve aussi auprès de ceux qui sont écrasés et qui sont rejetés par la société, comme les péagers, les collaborateurs, les prostituées. C'est avec ces personnes-là que Jésus conversait, quoi qu'en disaient les autres. Il ne se préoccupait nullement du « qu'en dira-t-on ». Jésus cherchait ceux dont l'esprit était écrasé, les déçus, toutes ces pauvres histoires humaines. Au verset 4, nous lisons « Bienheureux ceux qui mènent deuil, car ils seront consolés. » Des millions d'humains pleurent et mènent deuil. Et je ne parle pas de ceux qui se plaignent trop facilement, mais de ceux qui sont réellement abattus. Et le mot moderne pour abattu, c'est dépressif. Dans le texte, il s'agit littéralement de ceux qui mènent deuil. Et le deuil peut être profond. Et on ne le chasse pas, simplement en chantant. Ce deuil prendra du temps, car il faut faire son deuil. Le deuil a toujours à voir avec une perte. Je me suis demandé, Dieu peut-il être en deuil? Dieu connaît-il le chagrin? Je sais que Jésus a pleuré, et je me demande si le Père aussi pleure. Dans le psaume 95, au verset 10, il est écrit que pendant 40 ans, Dieu a eu le peuple d'Israël en dégoût dans le désert. Et dans Genèse, au chapitre 6, verset 5, nous lisons que Dieu se repentit d'avoir fait l'homme et qu'il s'en affligea dans son cœur. Voilà donc le chagrin de Dieu. Mais revenons aux béatitudes. Ici, il s'agit du deuil de l'homme. Et la plus grande perte réside dans la perte d'un être cher, que ce soit un enfant ou un époux, une épouse. Quel chagrin! La mort est un ennemi horrible, mais Jésus a vaincu la mort. On peut aussi perdre son chez-soi, et c'est tragique de ne plus avoir d'endroit sûr. J'ai rencontré plusieurs personnes qui se sont perdues elles-mêmes. Elles ont perdu leur identité, et c'est grave. Ces personnes jouent continuellement un rôle pour essayer de se faire accepter par les autres. Mais quand on perd ainsi sa propre identité, on n'a plus d'amour propre, on n'a plus de respect de soi. Il y a beaucoup de jeunes qui souffrent de ceci. Et on en a fait un nouveau mot, le vol d'identité. Mais c'est le diable qui fait ça. Le diable ne veut pas que nous soyons qui nous sommes. Dieu se nomme lui-même « Je suis celui qui suis ». Et Dieu a voulu créer des êtres qui sont qui ils sont. Il y a des tas de gens qui ne peuvent être qui ils sont. Je pense aux victimes des tyrans, aux victimes de la traite des humains, à tous les exploités de partout, y compris dans notre pays. Pensons aussi à l'histoire de l'Holocauste et à l'histoire de l'Église, l'Inquisition, les persécutions, les bûchers, quelles histoires horribles. Et la peur de l'enfer, quel chagrin n'a-t-elle pas occasionné? Il y a eu tant de personnes endeuillées, mais il est écrit qu'elles seront consolées. Et Jésus a dit que le Consolateur, c'est l'Esprit Saint. Alors, ce Consolateur, quand il agit en nous, alors nous aussi, nous sommes appelés à consoler. Lisons le psaume 56, au verset 9. Il est écrit « Toi, tu comptes les pas de mon errance. » Que penser de cela? Dieu note que nous avons erré. Dieu est tellement miséricordieux qu'aucun de nos pas ne se perd. Il conserve nos biographies dans son livre. Il est écrit encore « Recueille mes larmes dans ton outre. » Oui, Dieu va conserver toutes nos larmes. Et c'est notre consolation, parce qu'un jour nous serons consolés, jusqu'à ce que ces outres soient complètement vidés. Et justice sera enfin faite. Parlons de l'injustice des plus forts. Je veux parler de ces forts qui ne viennent pas en aide aux faibles. Car si nous disons « Je suis fort dans le Seigneur », alors nous avons le devoir de soutenir les plus faibles. Et cela peut se faire à tous les niveaux, dans nos familles, dans nos situations de travail, et aussi dans nos églises. Il ne faut pas que là, un seul ait tout à dire. Il ne faut pas qu'il y règne la loi du plus fort. Ce serait affreux. Il y a tant de violence dans le monde. C'est comme au jour d'avant le déluge. Nous, nous sommes appelés à consoler. Revêtons les malheureux du manteau de l'amour de Dieu. Nous avons déjà ce manteau. Donc, recouvrons-les et voyons ce qui se passe alors. Jésus a prononcé toutes ces béatitudes au sujet de personnes, au sujet des humains. Les humains seront consolés. J'arrive au verset 5, où on parle des doux, des humbles. Grâce au royaume de Dieu, nous sommes devenus humbles et doux. Nous sommes réputés pour notre gentillesse dans nos rapports avec les autres. Apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, disait Jésus. Mais il y a sur terre beaucoup de personnes douces et humbles de cœur. Et sans doute en connaissez-vous. Nous, nous sommes héritiers d'un royaume céleste. Et Jésus dit des doux qu'ils hériteront la terre. On ne peut pas imaginer de meilleur roi, de meilleur président que des doux. Penseriez-vous à écrire dans un curriculum vitae qu'en plus de vos formations et diplômes, vous êtes doux et humble de cœur? Est-ce que ceci sied à quelqu'un qui a des ambitions? Non, n'est-ce pas? Les doux ne comptent pas dans ce monde. Mais dans Luc, chapitre 16, verset 15, nous lisons que ce qui est élevé aux yeux des hommes est une abomination pour Dieu, car Dieu préfère ce qui est humble et bas. Et ceci vaut pour tous les hommes, aussi pour ceux qui ne croient pas, ceux qui ne fréquentent pas l'Église. Quelles étaient les convictions religieuses du bon samaritain de la parabole ? Bonne question, n'est-ce pas? Les doux ne sont pas des dominateurs, ce sont des gérants. Et dans l'avenir, ils seront employés. Ils hériteront de la terre, car celle-ci ne peut être dans de meilleures mains. J'en arrive au verset 6. Ceux qui ont faim et soif de justice. Combien y en a-t-il? Il y en a de plus en plus parce que la violence augmente. Et ces personnes disent, mais où est la justice? Je veux qu'on me fasse justice. Pensons aux combattants pour les droits de l'homme. Ils sont abattus. Voilà le sort de ceux qui combattent pour la justice. Ils sont maltraités. Ils sont tués. C'est terrible. Pourtant, ils ont droit à une justice. Eh bien, un jour, ils seront rassasiés. Oui, moi je suis déjà rassasié de justice. Enfin, depuis que je connais le monde de pensée du Père, c'est tellement beau. Quand quelqu'un nous vole notre pantalon, donnons-lui aussi notre chemise. C'est Jésus qui l'a dit. Et l'injustice ne nous atteindra plus parce que notre justice est intérieure. Jésus aussi avait cette justice. on lui a tout pris, y compris ses vêtements. Mais cela n'a pas traumatisé Jésus. Pourquoi ? Les assoiffés de justice seront rassasiés, parce que c'est nous qui leur donnerons la justice de Dieu. Et là où ils ont été bafoués, cela sera réparé. Pensons aux prophètes, ceux-ci ont tellement supporté d'injustice. D'ailleurs, comment ont-ils pu supporter tout cela? Ils ont dû avoir un secret en eux-mêmes. Jésus a été crucifié, lui, l'innocent. Jean, sur l'île de Patmos, a probablement été grillé. Et Pierre aurait été crucifié, la tête en bas. Et tous ces prophètes de l'Ancien Testament qui ont subi tellement de cruauté. Et cependant, quelque chose de plus fort était en eux, quelque chose qui les maintenait debout. Pourquoi a-t-on condamné Jésus? La réponse est à cause de la loi. Dans Jean, chapitre 19, verset 7, nous lisons que les Juifs disaient « Nous, nous avons une loi, et selon cette loi, il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Et ceux qui sont morts, où sont-ils? Ils sont dans le royaume des morts. Ont-ils reçu là leur justification, leur récompense, leur consolation? Non. Mais un jour, ils seront rassasiés. Toute la création soupire, et elle gémit, et elle attend. Elle gémit à cause des douleurs de l'enfantement. Parce que des personnes qui ont le royaume des cieux en elles naissent. C'est ça les douleurs de l'enfantement. Et ces personnes peuvent consoler et donner de la justice. Verset 7. Pensons à tous les miséricordieux, à ceux qui sont compatissants. Et il y en a beaucoup. Nous connaissons tous des personnes qui s'occupent des plus démunis. Ces personnes ont vraiment de l'amour en elles. Et peut-être qu'elles ne croient en rien, mais elles sont si compatissantes. Elles aiment vraiment leur prochain. À elles, miséricorde sera faite. En ont-elles besoin? Oui. Finalement, oui. Il y a tellement de personnes qui font du bien autour d'elles. J'ai vu un reportage à la télévision où une dame de la noblesse avait des titres comme baronne et d'autres titres. Mais cette personne était lucide. Elle disait « Ces titres ne sont rien. Je les ai simplement hérités. Le seul titre que j'aimerais avoir, c'est celui de « être humain bon ». Ne trouvez-vous pas ceci magnifique? Je pense que cette personne a tout compris. Il faut être un bon prochain. Oui, à ces personnes-là, miséricorde sera faite. Jésus appelle cette catégorie de personnes « mes brebis ». Il dit « ce sont mes brebis, mais elles sont dispersées ». Et même si elles sont mortes sans connaître l'Évangile, il leur sera fait miséricorde, parce qu'on leur dira « Soyez les bienvenus, vous les miséricordieux, parce que le royaume des cieux vous appartient. » Verset 8. Les cœurs purs. Ils verront Dieu. Ici, on parle des humains du monde, parce que nous, nous voyons déjà Dieu, mais eux, pas encore. Il s'agit des personnes qui veulent mener une vie pure, très consciencieusement, Elle pourrait même servir d'exemple à beaucoup de chrétiens. Ceux qui ont le cœur pur, c'est magnifique. Ce sont ceux qui sont honnêtes. Et j'ai toujours apprécié cette qualité, même avant de connaître le Seigneur. J'enseignais et je voulais être tout à fait sincère et honnête envers mes élèves. Lorsque je faisais une faute, ils avaient le droit de me le faire remarquer, et ensuite j'essayais de corriger. C'est un principe fondamental pour moi. Plus tard, j'ai eu un collègue qui faisait exactement la même chose. Et il était athée. Nous avions donc quelque chose en commun. Je pense maintenant que quelque chose de merveilleux attend cet homme. Il va voir Dieu. Nous avons beaucoup à offrir. Les cœurs purs, ce sont de belles personnes, pures dans leurs pensées. Elles sont pures comme Adam et Ève. Quelle belle déclaration de Jésus, ils verront Dieu un jour, dit Jésus. Et que dire des artisans de la paix, au verset 9. Et je ne parle pas des situations politiques, mais des artisans de la paix. Un psychiatre me disait un jour, si je n'aimais pas mes patients, ma thérapie n'aurait aucune valeur. Aimer les gens, voilà qui apporte la paix. Sommes-nous en paix avec nous-mêmes? Attention, le sommes-nous réellement? Sommes-nous satisfaits de nous-mêmes comme Dieu l'est? Les artisans de paix sont ceux qui nous confirment dans notre identité, de sorte que nous devenions en paix avec nous-mêmes. Ces artisans de paix seront appelés fils de Dieu. Moi, je suis déjà un enfant de Dieu, et c'est moi qui les appellerai fils de Dieu. Car ils sont de bonne facture, ces gens qui nous confirment, qui sont simplement heureux de ce que nous sommes. Peut-être qu'ils ne croient en rien, peut-être qu'ils ne comprennent rien à la Bible, mais ils nous confirment dans notre existence. La paix, c'est aussi la réconciliation. Êtes-vous réconcilié avec vous-même? C'est important, parce que c'est le début de la paix. Réconcilier, c'est réunir. Il se peut que nous soyons divisés à l'intérieur. J'ai entendu quelqu'un dire « Je suis composé de morceaux de doute. » Mais heureusement, ma femme me tient ensemble. Ceci me désarme. C'est misérable d'être composé de morceaux, mais ces morceaux ont un lien. Et quand on a le cœur en morceaux, il doit être réuni afin de redevenir un tout. C'est cela la paix, le shalom. Verset 10. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice. J'ai déjà parlé des militants pour les droits de l'homme, de ceux qui combattent pour la justice, et ils sont souvent persécutés. Comme Médecins sans frontières, qui opèrent et qui soignent tous, amis et ennemis. Combien de fois ne sont-ils pas persécutés, pris en otage, enlevés ou fusillés parfois? Et là, on voit clairement que le diable existe. Mais le royaume des cieux est à eux. Ils ont donné leur vie pour une bonne cause. Ce sont des candidats pour le royaume des cieux. Ce sont eux. La miséricorde de Dieu est infinie. Nous ne pouvons pas en mesurer la largeur ni la profondeur. toutes ces béatitudes, toutes ces paroles consolantes sont dites au sujet des hommes de la terre. Et quand, à la fin, les livres seront ouverts, ce sont les livres où sont inscrits les biographies des hommes. Et nous les jugerons. Ceci est écrit dans Apocalypse chapitre 20. Et la dernière béatitude est adressée aux disciples. Jésus les regarde et il dit « Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, qu'on vous persécute et qu'on répand faussement sur vous toutes sortes de méchancetés à cause de moi. » Jésus a déclaré bienheureux tous les autres qui ont subi des insultes, des persécutions, des mensonges. Mais, dit Jésus, vous, mes disciples, vous êtes heureux pour une autre raison. Si nous, les disciples, subissons ces outrages, nous sommes bienheureux. Nous devons être heureux. Non pas si nous souffrons comme voleurs, parce que ce n'est pas une souffrance à cause de Christ. Il se peut que nous devions supporter les conséquences de nos actes mauvais. Mais si nous devons souffrir à cause de Jésus-Christ, alors nous sommes heureux. Pourtant, ceci n'est pas évident. Lorsqu'on ment à notre sujet, ou quand nous sommes accusés injustement, comment réagissons-nous? Sommes-nous tout de suite sur la défensive? C'est une question cruciale, vous savez. Sommes-nous fâchés? Ou restons-nous bons dans ces circonstances-là? Regardons Jésus. Il a été si souvent accusé faussement, et les apôtres aussi. Et on s'est tellement moqué de Jésus, parce qu'il se disait le Messie. On se moque beaucoup de Dieu aussi. Dans les spectacles humoristiques, on ne s'en prive pas. Jésus a été accusé injustement. Mais nous, comment réagissons-nous? Si nous avons toujours de bonnes intentions, si notre conscience est en ordre, et si on nous accuse de choses que nous n'avons pas faites, que ce soit à propos de l'Évangile ou pas, est-ce que notre intégrité restera bonne? Notre intégrité nous maintient debout. Et c'est notre intégrité qui sera jugée. Comment sommes-nous dans le monde? Quelle sorte de voisins sommes-nous? Quels employés ou quels employeurs sommes-nous? Et il s'agit de ce que nous sommes vraiment, pas de ce que nous voulons paraître. Ne nous efforçons pas toujours de soigner notre image. C'est de l'énergie perdue. Mais soyons qui nous sommes. Dans Actes, chapitre 3, verset 21, nous lisons « Jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. » En grec, c'est un mot, c'est « apokatastasis ». Et ce mot ne revient qu'une seule fois dans la Bible. Donc, un jour, toutes choses seront rétablies, elles seront restaurées. Et ces choses concernent les hommes. Tous les hommes seront rétablis. Les perdus seront recherchés. Et tous les sujets de nos chagrins, de nos deuils, de nos privations, tout sera recherché et tout sera retrouvé. C'est magnifique, c'est ce qu'il y a de plus beau, toute chose. Voilà qui doit élargir notre vision. En consultant le dictionnaire, j'ai lu que cela signifie le retour à la situation originelle. Et cela me touche au plus profond. Comme c'est beau, mon Dieu. Le retour à la situation originelle. Voilà l'œuvre de notre Créateur et de notre Recréateur. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 5, verset 28, nous lisons « Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient en laquelle tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et ils sortiront. » Tous ces sépulcres, ce ne sont pas les tombes du monde entier, mais c'est le royaume des morts. Et la voix de Jésus, ils l'entendront par notre bouche. Oui, parce qu'à la fin du règne des 1000 ans, nous aurons les clés de la mort et du royaume des morts. Et il s'agit de milliards de personnes qui se lèveront, les bons et les mauvais. Car nous aurons ouvert les portes qui les emprisonnaient dans le royaume des morts. Leurs souffrances seront passées, et nous les consolerons de toutes leurs blessures. Et nous serons capables de consoler, parce que nous avons le Consolateur en nous. Des myriades d'humains sortiront de la mort et entreront dans le royaume des cieux. Nous, nous sommes déjà inscrits dans le livre de vie et nous ne serons plus jugés. Et comme le dit Paul, nous jugerons le monde. Lisez cela dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 2. Cela se passera au jugement dernier. Le jugement dernier, celui-ci a été dépeint d'une façon lugubre, avec des images épouvantables. Le jugement dernier, le purgatoire, l'enfer, et pas une once de miséricorde. Pourtant, il est écrit, ils sortiront. Enfin, ils pourront sortir après tous ces siècles d'emprisonnement. Et quand ils demanderont, qu'avons-nous fait pour mériter cela? On leur dira, qu'importe, vous avez été bons, vous avez souffert, venez maintenant. Et à d'autres, vous n'avez vécu que quelques heures, venez. Tous ceux qui ont été bafoués, meurtris, opprimés, soyez ressuscités pour la vie éternelle. Quant aux mauvais, ils seront jugés. Nous pourrons juger le monde, c'est-à-dire que nous découvrirons toutes ces biographies et nous dirons, pauvres humains, comme vous avez souffert, entrez dans le royaume de Dieu. C'est beau, n'est-ce pas? Aspirez-vous aussi vers ce jour, le jour où nous pourrons déclarer bienheureux toutes ces personnes. Cela nous fait devenir moins égoïstes et plus préoccupés de notre prochain. Pensez à ces choses, c'est important. On a dit de Jésus qu'il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Eh bien, nous sommes des rois et des seigneurs. Et on peut aussi appeler Jésus le juge des justes, le juge des juges. Car un jour, nous aussi, nous jugerons. Comme ce sera merveilleux de déclarer bienheureuses toutes ces personnes, de les rendre heureuses, de les consoler. Nous pourrons les écouter raconter leur histoire tragique, et nous essuierons toutes larmes de leurs yeux. C'est à nous qu'incombera cette tâche. Le champ de vision de Dieu est infiniment large, comme l'est sa miséricorde. Il contient toute la création, le monde visible et l'invisible. Toute cette création attend et soupire après ce jour où la gloire de Dieu sera manifestée en nous. Avant cela, nous connaîtrons la souffrance, parce que nous avons un ennemi horrible, et des douleurs de l'enfantement précéderont chaque réalisation de promesses, comme la naissance et la manifestation de Christ en nous. Restons ardents d'esprit, patients dans l'oppression, parce que Dieu a mis son espoir en nous. Amen. Prions. Père, apprends-nous à être comme toi, miséricordieux et bon, afin que ta volonté soit faite et que ton règne vienne. Amen.